Avertissement.
Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée.
Vous êtes la masse critique.
La masse critique.
C'est la règle des 3,5% de la résistance civile. Pour tous les mouvements sociaux importants recensés entre 1900 et 2006, les manifestations non violentes ont deux fois plus de chances de succès que les conflits armés. Et celles qui atteignent le seuil de mobilisation de 3,5% de la population ont toujours réussi à obtenir gain de cause.
Vous écoutez Radio Masse Critique.
Salut Masse Critique. Bienvenue à cette deuxième éclosion de notre émission Radio Masse Critique, en compagnie de vos trois variants.
Jocelyn.
Le dangereux variant intuitif, il s'attaque au cœur.
Stéphane.
L'implacable variant analytique qui infecte la raison.
Et Nicolas.
L'abominable variant de synthèse expérimentale multisymptomatique.
Profitons-en pour saluer tous nos nouveaux auditeurs, en particulier messieurs dames du SCRS qui ne manqueront pas de se joindre à nous si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, 18 janvier 2022, on va vous administrer une deuxième dose à propos de la vaccination. Cette fois, on va s'intéresser au contenu de ce qu'on injecte actuellement au groupe expérimental humain. Pour ça, il a fallu se tourner vers des expertises indépendantes, puisqu'à l'heure actuelle, le gouvernement ne semble pas s'en préoccuper outre mesure, et les fabricants, n'y étant pas obligés, se gardent bien de le révéler. Dans un premier temps, on va se tourner avec Stéphane vers l'analyse des effets secondaires aux États-Unis pour se rendre compte qu'il semble y avoir une grande disparité non seulement entre les différents vaccins proposés, mais entre les différents lots de ces vaccins. Dans un second temps, on va observer au microscope avec Jocelyn ce qui a été trouvé dans différentes fioles de vaccins ainsi que chez les vaccinés et leur entourage. Et là, accrochez-vous parce qu'on nage en pleine science-fiction. Et pour terminer, je m'adresserai aux gens qui pensent sérieusement à quitter le Québec. On va aussi lancer un appel à participer à une petite expérience. Mais avant, rendons hommage à un héros de cet épisode pandémique qui aura profondément marqué l'histoire du Québec.
Radio Masse Critique rend hommage aujourd'hui au Dr Horacio Aouda, qui a sacrifié son poste de directeur national de la santé publique, mais qui demeure malheureusement sous-ministre adjoint à la direction de la santé publique, au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Un avantage certain pour ceux dont les noms ne peuvent être prononcés sans porter atteinte au pouvoir corporatif. Sa rigueur, sa malice, ses talents de comédien et son indomptable énergie auront su mobiliser une pléiade d'acteurs au sein du gouvernement et des milieux scientifiques et accroître l'ingérence politique des grandes corporations pour ainsi promouvoir des médecines asservissantes et apocalyptiques auprès de la population du Québec. Nous lui souhaitons d'être honoré à la hauteur de ses services par les dirigeants de l'ONU et le grand prophète de l'IA au sein de l'Église transhumaniste immortelle du Forum économique mondial.
Thank you.
Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge.
Attention, attention.
Les vaccins COVID ne sont pas sécuritaires. Les vaccins COVID ne sont pas sécuritaires.
Bonjour, vous écoutez Radio Masse Critique et aujourd'hui, notre émission porte essentiellement sur les vaccins. Si vous recherchez des informations au sujet de la sécurité des vaccins, une activité hautement recommandée par les temps qui courent, vous tomberez sans doute, à un moment ou à un autre, sur les observations statistiques de Craig Pardo-Cooper, un scientifique de l'Université de Kingston à Londres. Craig nous présente des données tirées du VAERS, le système de surveillance des effets secondaires des médicaments approuvé aux États-Unis. Si vous avez écouté notre émission du 4 janvier 2022, vous savez que les données du VAERS sont peu consultées par les médecins du Québec, ce qui porte à penser qu'ils ne se soucient guère des dizaines de milliers d'effets secondaires graves et des milliers de décès rapportés au VAERS suite à la vaccination. Et vous savez aussi comment les médias et la santé publique tendent des embuscades aux médecins qui osent soulever des doutes sur la nécessité et la sécurité des vaccins. Le VAERS rapportait au 7 janvier 21 745 décès, 115 754 hospitalisations, 112 235 soins d'urgence, 8 811 anaphylaxies, 12 951 paralysie de Bell, 3 594 fausses couches, 11 055 attaques cardiaques, 25 734 myocardites et péricardites, 37 466 allergies sévères, 37 937 incapacités permanentes, et ainsi de suite. Si on additionne le nombre de cas d'anaphylaxie, de paralysie de Bell, de fausses couches, d'attaques cardiaques, de myocardite et de péricardite et d'allergies sévères, on obtient environ 90 000 effets secondaires graves, dont environ le tiers sont incapacitants. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Selon la lanceuse d'alerte Jane Doe, employée du CDC, programmeuse dont l'expertise est l'analyse des données administratives de soins de santé du Medicare et du Medicaid américain, le nombre d'incidents est nettement sous-rapporté. Pendant 25 ans, Jane a conçu 100 algorithmes de détection de fraude de l'assurance santé dans le domaine public et privé. Après avoir comparé les données du Medicare et du Medicaid à celles rapportées dans le VAERS, elle estime que les cas d'effets secondaires sont sous-rapportés d'un facteur 5, c'est-à-dire seulement un cinquième des incidents seraient rapportés en Amérique dans le VAERS. Et ceci concerne aussi les décès. Pour les 21 745 décès rapportés le 7 janvier 2022, on aurait donc 108 725 décès potentiels en réalité. Jane a fait une déclaration sous serment adressée à la Cour pour l'association America's Frontline Doctors. Mais nous sommes peut-être encore loin du compte. D'après le rapport Lazarus de 2009 d'une compagnie d'assurance du Massachusetts, les effets secondaires après vaccination seraient sous-rapportés d'un facteur 100, ou dit autrement, que moins de 1% des effets secondaires seraient rapportés au VAERS. Les 21 745 décès et les quelques 90 000 effets secondaires graves rapportés par le VAERS sont déjà une très mauvaise nouvelle qui justifie l'arrêt de la campagne de vaccination. Une sous-évaluation d'un facteur 5 serait une véritable catastrophe. Et entre l'évaluation très conservatrice de Jane Doe d'un facteur 5 et celle d'un facteur 100 du rapport Lazarus, il n'y a de place que pour des résultats encore plus désastreux. Ceci étant posé, revenons maintenant aux observations statistiques de Craig Pardo-Cooper. En compilant les données du VAERS, ce chercheur de l'Université de Kingston de Londres note que certains lots de vaccins cumulent un grand nombre d'effets secondaires alors que d'autres, à l'opposé, ne sont associés qu'à un nombre très restreint d'effets indésirables. En outre, il constate que 5% des lots de vaccins produisent 90% des effets indésirables. Un fait étonnant puisque la réglementation de la production de vaccins interdit toute possibilité de variation importante entre les vaccins pour des raisons de sécurité. Comme l'a fait remarquer le Dr Malone, spécialiste des vaccins, la production de vaccins est un art à l'équilibre fragile, entre les effets secondaires acceptables et l'efficacité médicale. Des doses trop concentrées, par exemple, auraient des conséquences inappropriées, et des doses trop ténues seraient de peu d'efficacité. Or, la différence entre les lots peut s'élever à plus de 1000 à 5000 fois en termes d'effets secondaires par lot. Craig Parr de Cooper a établi, à l'aide des données du verre, que seulement un lot de vaccins sur 200 sont toxiques. Pour apporter une réponse pratique à la question « How bad is my batch ?», le nom officiel de son site Internet, le chercheur a créé une banque de données facile à consulter. Les informations permettent aux vaccinés et aux non-vaccinés qui auraient la tentation inexplicable de prendre le vaccin, d'identifier les lots de vaccins en fonction du nombre d'effets secondaires à l'aide du code numérique ou alphanumérique associé à chacun des lots. Le Dr. Mark Yeadon, ancien président de Pfizer, spécialiste des maladies respiratoires, affirme au sujet du travail de Craig Parr de Cooper. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un de nos chercheurs assidus a remarqué il y a peu que les événements indésirables ne se produisent pas de manière aléatoire parmi les lots de vaccins fabriqués par un fabricant donné. Au contraire, il semble que 5% des lots soient associés à tous les décès. Compte tenu des exigences de cohérence associées à un produit autorisé, il est absolument impossible qu'il s'agisse d'un événement fortuit. Non, dit-il, c'est, j'ai le regret de le dire, une preuve univoque de malfaisance.
See my way.
Ouais, mais Steph, ça mérite une discussion, je pense.
Je suis d'accord.
On commence avec quoi?
On pourrait peut-être s'interroger...
Vas-y.
On pourrait peut-être s'interroger sur le fait que si effectivement il y a une sous-évaluation des effets secondaires des vaccins... Qui sont rapportés au vert.
Et des décès.
Effets secondaires. Tous effets secondaires confondus.
Quelle est l'incidence sur... les propos qu'on a de Pardor Cooper. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours valable son affirmation qu'il y aurait des lots, qu'il existerait des lots qui seraient non toxiques, alors que si c'est sous-évalué, même si on augmente, on garde les mêmes proportions et qu'on augmente la proportion des effets secondaires sur les lots toxiques, on va être obligé aussi de les augmenter sur les lots qui sont considérés comme non toxiques. Fait que s'il y avait un lot qui avait...
Ouais, c'est comme si tu multiplies par 100 les effets secondaires de chaque lot, ça change la donne
Donne, il n'y aurait plus aucun vaccin ne serait pas toxique.
On sait qu'il y a des incitatifs à ne pas reporter les cas au VARS, à ne pas faire de rapport quand il y a des effets secondaires. Fait que on pourrait avoir le raisonnement inverse puis dire... Il y a certains hôpitaux, certains docteurs qui, eux, vont rapporter les cas, donc ils vont être plus près de certains lots, qui vont être liés à certains lots, qui fait que des lots apparaissent plus toxiques parce qu'ils sont, inoculés dans une institution qui rapporte plus, qui fait plus de rapports par rapport à d'autres.
Exactement, ça revient à ça aussi.
C'est vrai qu'aux États-Unis, on sait que les rapports sont plus faciles à faire qu'au Québec.
Au Canada.
C'est vraiment sous-rapporté, là.
Ouais, il y a beaucoup d'indétermination. Puis quand tu regardes les rapports puis le nombre de cas rapportés, en fait, tu mesures deux choses. Tu mesures les effets secondaires, l'incidence des effets secondaires et l'incidence de rapports de cas d'effets secondaires.
Mm-hmm.
C'est deux covariables.
Ouais.
Ouais.
Fait que ça complique les choses.
Ouais, puis on sait que plus le délai est long entre l'effet secondaire et la cause possible avec un vaccin, que le taux de déclaration est de plus en plus faible.
Fait qu'à ce moment-là, la conclusion, ce serait peut-être que...
On assume, en fait. On n'a pas de données qui nous permettent d'affirmer ça.
On n'a pas de données, mais on sait que plus ça s'éloigne dans le temps, moins les médecins semblent ouverts à la déclaration.
Ça, c'est une hypothèse qu'on avait posée à la dernière émission, il me semble. Mm. Mais moi, je ne me souviens pas d'avoir lu quelque chose qui confirme ça. C'est juste comme logiquement, si quelqu'un arrive malade, mais que ça fait deux semaines qu'il a été vacciné, tu as moins tendance à le lier au vaccin que si c'est le lendemain qu'il a été vacciné.
Oui. En tout cas, on entend beaucoup de témoignages en ce sens-là.
C'est
moi,
ça.
Moi, je n'ai pas pris connaissance de statistiques, là, mais...
On n'a pas d'avis d'expert là-dessus.
Non, c'est ça.
Donc, moi, ce que je vois, moi, je pense que je mettrais en doute le fait de l'existence de lots qui seraient pas toxiques, ou en tout cas, que 90% des lots seraient pas toxiques. Qu'environ un lot sur 200 serait pas toxique. Parce qu'à ce moment-là, s'il y a effectivement beaucoup de lots qui ne sont pas... dont les effets secondaires graves ne sont pas rapportés...
Ben, on va le voir plus loin, plus tard, tantôt. On va voir. Il y a quand même des lots qui ont... On le sait qu'il y a des lots qui sont des comment t'appelles ça?
Des solutions salines.
Des solutions salines.
T'appelles
c'est
ça... Comment ça s'appelle? Un placebo. Ce sont des placebos.
Oui.
Il y a des gens qui sont placebos.
Oui, on va voir ça tout
à l'heure. À quel point... Moi ce qui m'interpelle, c'est que si les compagnies pharmaceutiques, effectivement, testent différents produits sur le monde, comment ils font pour faire le suivi, avoir les données sur les effets secondaires des différents patients? Ça implique, en quelque part, que soit ils contrôlent la distribution, puis ils sont capables de dire... tel lot va à tel hôpital, puis là, ils sont capables de dire, à partir des données venant de tel hôpital, d'évaluer leurs produits, ou soit ils ont accès directement au dossier des patients. Si l'hypothèse...
Ou les deux.
Si effectivement l'hypothèse que les compagnies pharmaceutiques testent toutes sortes de cochonneries sur le monde,
ouais.
Il faut aussi qu'il y ait le moyen de suivre qu'est-ce qui est testé sur qui.
Ouais.
Ouais,
ça pose des questions. Il faut
qu'ils puissent obtenir les données pour pouvoir les analyser.
Il faut que tu gardes de faire le lien entre le produit testé et le groupe expérimental.
Exactement.
Puis s'ils mettent des fioles avec de l'eau saline, c'est qu'en quelque part, ils font un suivi sur leur propre groupe contrôle au sein du groupe expérimental.
Oui, oui, c'est ce que ça suppose.
Alors, ça pose beaucoup de questions.
À ce moment-là, oui, exactement. Fait que, au niveau de la société, au niveau de la politique, au niveau de la politique actuelle, ça pose la question si effectivement ils effectuent ce genre de suivi-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les gouvernements sont au courant?
Ben, les gouvernements n'ont pas l'air même pas au courant de ce qu'il y a dans les vaccins.
Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils sont au courant?
Il faudrait être capable de lire les contrats que les gouvernements passent avec les pharmaceutiques. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un Roumain, je pense, un ministre roumain qui montre, il dit « Oui, on a eu les contrats », puis là, il les montre, puis tout est caviardé. C'est juste des barres noires. C'est assez intéressant, cet extrait-là. C'est en anglais. Là.
Okay.
Il dit... Il dit « Je l'ai, ça ne bouge pas ». Il dit, the difference between tyranny and democracy is very simple. When the government knows everything about you, it's tyranny. When you know everything about your government, that's democracy. Ou en français, la différence entre la tyrannie et la démocratie est très simple. Quand le gouvernement sait tout sur toi, c'est la tyrannie. Quand tu sais tout sur le gouvernement, c'est la démocratie.
C'est bien, c'est
une belle formule. Je laisse les auditeurs déterminer dans quel régime on vit en ce moment. Qu'est-ce qu'on rajoute à propos de ça?
Est-ce qu'on passe au prochain bloc?
Ouais.
Oui.
Parce qu'on a quand même pas mal de matériel à couvrir.
Ouais.
Oui, puis on pourrait ensuite y aller d'une discussion pour assembler les deux blocs.
Parfait. Vous écoutez Radio Masse Critique, on poursuit en musique à l'instant.
Tu veux, en fait.
Alors, Steph, pour faire suite à ce que tu as expliqué, tout ce problème des concentrations, des décès et d'effets secondaires graves dus au vaccin COVID dans certains points géographiques précis, plutôt que d'être répartis de manière égale dans l'ensemble d'un territoire, ben, la question se pose. Est-ce qu'un organisme officiel en santé, au Canada ou ailleurs, aurait eu la bonne idée d'analyser le contenu des fioles des fabricants?
La question se pose.
Oui,
la question se pose. Une bonne idée.
Dernièrement, le 12 janvier, le professeur Christian Perron a été reçu au Parlement du Luxembourg. Mais n'allez pas croire que les Perron, Alexandra Henrion-Caude, Luc Montagnier et d'autres ont été accueillis en héros. Non. Au Luxembourg, c'est comme au Québec, le règne du narratif officiel de la pandémie. Ce sont des pétitions, une pour stopper la vaccination des enfants, l'autre contre le passeport sanitaire, qui ont obtenu le nombre de signatures requises pour que les pétitionnaires puissent forcer le débat au Parlement du Luxembourg. Donc, Christian Perron en a profité pour demander un moratoire immédiat pour toutes les thérapies géniques expérimentales COVID-19 parce qu'il juge qu'elles ne s'appuient sur rien de scientifique. Il dit ceci.
L'EMA, l'Agence européenne des médicaments, a avoué, c'était l'été dernier, qu'il ne connaissait pas la composition totale de ces vaccins. Et pourtant, il l'autorise.
Alors, moi, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que Santé Canada a fait mieux que l'Agence européenne des médicaments. Par contre, plusieurs professionnels de la santé et des scientifiques ont pris l'initiative de le faire. Commençons par le professeur Pablo Campra de l'Université d'Almeria à Madrid, en Espagne. Pablo Campra, qui est docteur en sciences chimiques et licencié en sciences biologiques, a publié un rapport technique complet de ses analyses le 2 novembre 2021. J'ai pris connaissance de son rapport dans l'article de Ramolade, publié sur le site The Everyday Concerned Citizen. Pour cet article, je vous donne juste le titre pour vous donner une idée du contenu. Des preuves accablantes de réseaux de nanocapteurs sans fil à auto-assemblage utilisant des points quantiques de graphène, des nano-routeurs et des nano-antennes trouvées par le docteur Pablo Campra dans 4 vaccins COVID. Maintenant, voici un extrait du documentaire Hold On qui fait référence aux résultats de l'étude du professeur Campra et de son équipe, publié le 27 octobre 2021, intitulé, si je traduis, « Objets microscopiques fréquemment observés dans les vaccins ARNm COVID-19 ». Je vous fais entendre l'extrait de Hold On, sorti le 23 novembre 2021.
Nous sommes bien dans une guerre de l'information. Qui en sont les acteurs? Qui les dirige? Pourquoi aucun média n'a cherché à connaître la composition de ces vaccins? Plusieurs laboratoires dans le monde ont essayé de percer le secret de ces fioles. La dernière nous vient d'Amérique latine. Dans ce rapport de 1000 pages, qui fait la synthèse de plusieurs études, on découvre quelques composants de ces vaccins. Il y aurait bien du graphène, mais pas que. Petit florilège de composants alarmants. De l'aluminium, mais aussi des objets non identifiés et non dégradables comme le silicium ou neurotoxiques comme le brome, sans parler même d'un élément radioactif, le technétium, qui n'existe pas dans la nature. Inhalé, il est cancérigène. Dans le sang, personne n'a jamais essayé, et pourtant le voilà dans nos veines. Le résultat le plus étrange et inquiétant pour cette équipe reste la découverte de champs électriques que la fiole émettrait lorsque le liquide est remué. Les chercheurs insistent, nous ne connaissons aucune autre substance fabriquée par l'homme qui présente une telle caractéristique. Mais il reste de nombreuses inconnues, comme ces objets, ces organismes ou ces formes non identifiées. Le rapport fait froid dans le dos, nous sommes en pleine science-fiction.
Pour autant que nous le sachions, ni l'identité de ces objets n'a été déclarée par les fabricants, ni ils ont été correctement identifiés par des laboratoires indépendants.
C'est très troublant, je pense que vous en conviendrez.
On nage effectivement en pleine science-fiction.
Oui, effectivement.
Le terme est bien choisi.
Oui, puis toutes les références vont être sur notre site Radio Masse Critique. Mais là, on va passer de quelque chose qui ressemble à de la science-fiction à carrément un film d'horreur. Stu Peters a reçu à son émission la docteure Carrie Madej, qui parle de ses observations sous microscope de restants de fioles de Moderna et Johnson & Johnson. J'ai pas trouvé de traduction audio en français, alors je vais vous lire un extrait de l'échange. La traduction est un peu approximative. Stu Peters. Alors, vous nous avez envoyé ces images, je les ai regardées, je dois vous dire que j'ai trouvé ça effrayant, je me rends compte que je ne comprends pas ce que j'ai vu, alors aidez-moi. Carrie Madej. OK. Alors, premièrement, en juillet, un laboratoire local en Géorgie me dit qu'ils veulent que j'examine le contenu des échantillons qu'ils viennent de recevoir, des échantillons frais. Ils ont été utilisés pour injecter des patients. Parce que c'était la fin de la journée, ils allaient s'en débarrasser. Donc, ils ont été en mesure d'avoir ces échantillons. Et ces échantillons étaient Moderna. Alors, j'étais là pour les observer prendre ces échantillons et les placer sur des lames de microscope pour les examiner. Rien n'a été ajouté dans le contenu, rien n'a été dilué, aucun tissu humain ajouté. Seulement la lumière blanche du microscope. Et bien sûr, au fil du temps, il est devenu à température ambiante. Au premier regard, c'était translucide. Après 2 heures, des couleurs ont commencé à apparaître. Je n'ai jamais vu une chose semblable. C'était une réaction chimique. Un bleu brillant, violet, jaune, parfois vert. Quand ces couleurs sont apparues, je ne savais pas ce que c'était après avoir fait plus d'investigations. Comment un matériel supraconducteur réagirait à la lumière blanche qui y serait exposée? Un matériel supraconducteur qui pourrait être une puce informatique injectable. Ces fibres commencent à apparaître de plus en plus. Certaines d'entre elles avaient une petite structure cubique. Je ne suis pas certaine de ce que c'était. Aussi, il y avait des fragments métalliques. Il y avait aussi des fragments métalliques plus exotiques.
Non métalliques.
Oui, non métalliques. Lorsque vous déposez la chose sur le dessus de la vitre, il y a un rebord. Toutes ces particules et ces couleurs ont commencé à se déplacer vers les rebords. Et là, il y avait des choses qui s'assemblaient d'elles-mêmes et grossissaient. Vous savez, elles semblaient synthétiques. Il y avait quelque chose de particulier, je dirais objet ou organisme. Je ne suis pas sûr de comment l'appeler. Il avait des tentacules et il était capable de se soulever et de sortir par lui-même de la vitre d'observation. Stu Peter. C'était vivant? La chose était vivante? Carrie Madej. Oui, elle semblait être consciente. Elle était capable de grandir et de bouger dans son espace. Je peux vous dire que ce ne sont pas des choses qu'il nous parle quand on est à l'école de médecine. Jamais non plus dans mon laboratoire. Ce sont des choses que je n'ai jamais vues auparavant. J'ai montré ça à des gens du milieu et ils ne savent pas c'est quoi. Alors j'ai pensé. La première fois que je l'ai vu et l'avoir regardé encore et encore avec des collègues, on s'est tous dit « Waouh, cette chose est consciente et elle sait qu'on la regarde. » C'est juste une intuition, un sentiment que j'ai, mais c'était vraiment dérangeant. Après plus de 2 heures, tout était détruit, bien sûr, à cause du réchauffement là, sous les lumières. Je me suis dit que c'était peut-être un problème avec un échantillon. Et puis, récemment, le lab a réussi à en avoir d'autres du même fabricant, d'un lot différent, bien sûr. Je l'ai observé de la même façon et il avait encore la chose avec sa structure et ses tentacules. Elle était maintenant complètement en dessous du couvercle de la vitre. Elle n'avait pas de mouvement parce qu'elle n'était pas sur les rebords. J'en revenais pas d'en voir encore une. C'était la même chose avec ses fibres, ses couleurs. si je le refais encore, je vais devoir filmer pour que vous puissiez voir les mouvements. C'est vraiment étrange. Nous avons aussi examiné des échantillons de Johnson & Johnson. Nous avons également observé des substances qui ressemblent à du graphène. Tous les échantillons ont des structures de graphène. Les échantillons de Johnson & Johnson avaient aussi des couleurs, mais plus fluorescentes. Il y avait encore les structures synthétiques. Johnson & Johnson, c'était plus des structures sphériques, des couronnes. Je vous décris une chose que je n'ai jamais vue auparavant. Ce n'est pas censé être dans des injections ou faussement appelées des vaccins. Qu'est-ce que ça va faire à un enfant? Stu Peters, c'est terrifiant. Karima Dej, j'ai commencé à pleurer quand je l'ai vu pour la deuxième fois au microscope, parce que ça confirmait ce que j'avais vu la première fois. Bon, on est bien parti. Alors, poursuivons cette histoire d'horreur. Frank Zaleski, un scientifique polonais, a confirmé la découverte de l'hydre dans les vaccins COVID faits par la docteure Karima Dej. Frank Zaluski se présente lui-même. Je m'appelle Frank Zaluski, je suis géologue, minéralogiste, mais aussi archéologue, cosmologue, égyptologue. Fasciné par les mathématiques et par vocation, je suis un découvreur de vérité en Pologne et dans le monde.
Je ne sais pas si c'est assez spécialisé pour passer à Radio-Canada.
Je ne pense pas, Nicolas. Je souligne en passant que des fact-checkers de l'AFP factuel ont vérifié les affirmations de Zaluski et qu'ils ont été obligés de concéder ceci. Frank Zaleski déclare avoir réalisé les clichés d'observation au microscope électronique dans un laboratoire de l'université Jagiellonne de Cracovie, la plus ancienne université de Pologne. Contacté par l'équipe polonaise de l'AFP factuel début novembre 2021, Marek Michalik, de l'Institut des sciences géologiques de l'Université Jagiellonne, qui supervise le laboratoire de géologie de cette institution, a confirmé que Frank Zaluski a pris des photos et analysé la composition chimique des échantillons dans notre laboratoire à la fin du mois d'août. Les fact-checkers de l'AFP factuel ont aussi dû confirmer que Zaluski a bien obtenu un doctorat en géologie de l'Université de Silésie. Je pense que ça prouve le sérieux du personnage. En tout cas, ça démontre des compétences certaines. Donc, lors de sa conférence, Zaluski explique qu'il a analysé le contenu de 3 fioles de vaccins COVID-19 de Pfizer. Les 2 premières ne contenaient que des solutions salines. Dans la 3e, il a découvert un organisme qu'il a appelé la chose, qu'on voit sur des agrandissements de photos de sa conférence. La tête a 20 microns et la longueur des tentacules est de 2,5 mm. À l'échelle, il dit que si la tête de la chose avait 2 mm, les tentacules auraient 25 mètres. Zaluski ajoute qu'il a trouvé d'autres spécimens de cet organisme dans d'autres échantillons puisés dans la 3e fiole. Et il précise que cette chose, constitué d'aluminium, de brome et de carbone, est donné aux gens dans les vaccins sous forme d'œuf. Je termine ce billet avec le témoignage d'un dentiste qui décrit, sous microscope, les prélèvements qu'il a faits à l'intérieur de la bouche de 2 patients vaccinés. Le document a été publié sur Odyssey le 26 décembre 2021. La voix du dentiste a été modifiée et son visage flouté pour dissimuler son identité.
Voilà donc ce que l'on peut observer, ce qui est assez étonnant, ok, sur les préparations. Alors on se balade dans toute la préparation. Ici, on a du tissu épithélial, on a des bactéries, et boum, tout à coup, on tombe sur ces structures très particulières que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. On peut dire qu'il y aura une sorte de membrane plasmique, mais qui est alvéolée, si on veut la décrire. Il pourrait y avoir un noyau au centre, ce que l'on voit en blanc, Il pourrait y avoir des organites, mais qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Toujours est-il que il y a autour des bactéries qui semblent vouloir s'en rapprocher. Voilà encore la même structure. On voit là tout un groupe là. Alors comme vous voyez, c'est pas parfaitement rond, c'est toujours un petit peu bizarre comme forme. Alors si on compare à des structures classiques que l'on retrouve, des structures épithéliales et tout, ça n'a strictement rien à voir. Voilà encore une de ces structures, tout à fait bizarre. Voilà, je fais une mise au point. C'est quand même assez étonnant, assez étonnant. Donc si on se balade un petit peu partout, on en retrouve. Donc chez les vaccinés principalement, énormément. Chez les non-vaccinés, en contact avec les vaccinés, on en retrouve beaucoup moins, mais on en retrouve. Mais là, voilà, là, c'est l'exemple d'un patient qui est vacciné et qui a cette structure, ces structures en grand nombre. On en retrouve partout. Énorme, 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 énorme. Regardez ça. C'est impressionnant, hein? C'est totalement impressionnant. Voilà, et si on prend une autre préparation, donc j'enlève, voilà, on en retrouve de nouveau. Toujours ces structures chez des patients vaccinés. C'est énorme, hein, tout ce qu'il y a. C'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Alors, au niveau clinique, il est bien. La gencive est propre. Mais il y a toujours ça. Voilà. Si on peut me donner une réponse, j'aimerais bien.
You two have something in common, it would appear.
Who?
Yes, I see from his case history that he did have something of a, well, passion.
There's nothing wrong.
Bon. Eh bien, bienvenue dans le monde réel.
Vous écoutez Radio Masse Critique.
Le constat qui pour moi s'impose, ben, c'est que les vaccinés sont dans la merde et puis qu'on est tous pris dans ce manège, puis qu'il va falloir à un moment donné comprendre qu'il va falloir trouver des solutions pour qu'on arrive à nettoyer tous ceux qui ont été contaminés par ces vaccins-là, des remèdes, des solutions, des traitements capables de réduire tous les effets à long terme qui vont survenir avec le temps.
Ouais. On est dans la merde. Pas juste les vaccinés.
Ah non, pas juste les vaccinés.
Ça paraît pas bien.
Mais eux, c'est parce qu'ils sont impliqués directement, ils sont visés directement.
J'ai retrouvé une note, j'avais écrit à un moment donné, je sais pas quand, j'avais écrit « S'il faut être complotiste, ouais, non, s'il faut être cinglé pour voir les complots, faites-moi confiance, les gens sains d'esprit sont dans la merde. »
Oui. Parce que ça, c'est une réalité qui apparaît tout à coup. Les gens qui croient au narratif n'arrive pas à concevoir qu'un tel crime puisse avoir lieu et qu'il les vise directement. Ils ne peuvent pas croire...
Ils ne peuvent pas le concevoir.
Non, ils ne peuvent pas le concevoir. Ils ne peuvent pas concevoir que le gouvernement, les médias, la santé, que des experts viennent confirmer...
Que tout ça soit coordonné.
Exactement.
Mais juste faire remarquer un truc. Un expert, ça ne coûte pas très cher. À acheter. Quand tu regardes les conflits d'intérêts, là, pour 15 000, 20 000 piastres, tu es capable de faire dire pas mal ce que tu veux à un expert. Que tu observes, là, tu regardes les bases de données de qui des conflits d'intérêts, en fait, parce que en France, en tout cas, ils sont obligés de déclarer leurs conflits d'intérêts ici aussi. Ça coûte pas cher à acheter un expert. Là, je vais regarder en live.
OK.
Great Barrington, ça vous dit quelque chose? Parce qu'il y en a qui font beaucoup confiance aux experts parce que c'est des gens, tu sais, qui sont qualifiés. Mais je vous invite à aller voir la déclaration de Great Barrington, gbdeclaration.org. Il y a une version en français. Là-dessus, c'est j'ai 15 707 professionnels médicaux et de la santé qui ont signé cette déclaration-là et 46 000 praticiens médicaux. 46 412 qui ont signé ça. Fait que si vous aimez ça, les blouses blanches, allez voir Great Barrington Declaration, la déclaration de Great Barrington. Il y a beaucoup de gens qui disent « ça n'a pas de bon sens ce qui se passe ». Ouais, ouais. Ça, c'est depuis le début de la pandémie, là, puis c'est par rapport à toutes les mesures qui sont appliquées. Ouais. Pour ce qui est de tout ce que vous avez entendu ce soir, on sait que pour certains, c'est assez troublant à entendre. Les vaccins, il y a une science, tu sais, la science telle qu'on nous la présente et qu'on la connaît, c'est des experts, des scientifiques qui font des recherches, qui publient leurs travaux. Mais ce que vous voyez là avec tout ce qui se passe avec ce qui s'est passé à Wuhan, les recherches sur les gains de fonction sur des coronavirus, puis ça a été établi, là, a été fait, où ils ont pris ils ont pris la protéine spike, comme la protéine de pointe, qui ont greffé sur un autre virus pour que le virus devienne transmissible à l'homme. Je suis même pas certain que c'est ce virus-là qui est le coronavirus aujourd'hui, mais ces recherches-là, elles sont faites, elles sont financées par le NIH à grands coups de millions.
Puis Fauci est impliqué jusqu'aux oreilles. Là.
Et ces recherches-là ne donnent pas toujours lieu à des papiers. À des articles qui sont publiés dans les revues scientifiques. Donc, il y a une recherche qui se fait qui n'est pas publique, qui n'est pas partagée. Et la preuve de ça, c'est la tonne de vaccins, pas de vaccins, de brevets qui ont été sortis par rapport au coronavirus.
C'est parce ça que j'allais dire.
Quand il y a eu Wuhan, il y a eu le virus, le alpha de Wuhan, on nous a dit que c'est un nouveau coronavirus qui a été transféré d'animaux au wet market à des humains.
Bon, en fait,
mais il y a quand tu regardes le séquençage du coronavirus qui a été fait, il existe déjà comme des dizaines de brevets, dont un brevet sur la protéine Spike qui a été breveté.
Puis ces recherches-là, il n'y a pas d'articles qui ont été publiés par rapport à ces recherches-là, mais il existe des brevets enregistrés.
Qui sont antérieurs à la pandémie.
Ils sont bien antérieurs, oui, c'est ça.
Bien antérieurs.
Donc, il faut se poser des questions en quelque part. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Ah oui, je voulais juste faire comme... Parce que là, on a, dans tes extraits,
oui.
On parle de Pelosi. Comment il s'appelle?
C'est Zalewski.
Zalewski. Bon, je veux juste souligner que ce qui est observé par chacun, par Madej, Zalewski, puis par le dentiste, ben, le oui. dentiste anonyme,
oui.
C'est pas les mêmes structures.
Non,
des structures
exactement.
Différentes.
Exact.
Je voulais juste faire cette mise au point-là. Oui. Puisque ce qui est observé, dans, parce que là, on voit pas la vidéo, c'est tiré d'une vidéo, le dentiste, ça ressemble à une espèce de grosse cellule, ce qu'il voit. Mais il y en a partout sur sa... sur son échantillon.
Oui, puis d'ailleurs, dans la vidéo de Madej, si on la compare à celle de Zalewski, ce qu'ils appellent l'hydre, puis que Zalewski appelle la chose, ont deux structures qui diffèrent. Alors qu'elles ont...
Mais c'est quand même le même principe, comme une tête avec des pattes.
C'est ça, c'est des... ah, exactement.
Il y en a un qui est Moderna, l'autre c'est Pfizer.
Exactement, voilà.
Puis l'histoire des antennes, ouais. On va y revenir tantôt, non? C'est troublant.
Oui, puis je pense qu'il faut insister sur le fait que présentement, le groupe des gens qui refusent le vaccin versus celui qui l'ont accepté, on cherche à les séparer le plus possible.
À les opposer.
Oui, à les opposer puis en faire des ennemis. Alors que ce qu'on se rend compte avec toutes ces études-là, c'est qu'il faut vraiment s'associer pour lutter contre un ennemi commun.
Mais c'est l'histoire, ce que tu parles, c'est l'histoire du monde. Toujours, les gens qui dominent, qui tirent avantage de l'ordre social, ont toujours avantage à créer la division latérale pour que les gens s'haïssent.
Ouais.
C'est pas nouveau, mais... Dans ce cas-là, ben c'est ça. La stratégie, c'est de monter les vaccinés contre les non-vaccinés.
Oui, puis là, on est face à un phénomène très étendu, qui est mondial. Puis je pense qu'éventuellement, on va devoir trouver des solutions parce que les effets secondaires ne s'arrêteront pas là.
Non.
Les décès ne s'arrêteront pas là.
Non. Sans nécessairement faire le lien direct, ça fait des années qu'on parle que la population est vieillissante puis qu'on va arriver à un moment donné où... l'État sera plus capable de prendre en charge les soins de santé d'une population de plus en plus vieillissante.
Mm-hmm.
Puis on le sait. Puis on le sait comme quelque chose qu'on s'en va inévitablement là. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, 2020, 2021, 2022, on est là. Les enfants du baby boom dans tout l'Occident sont la grosse masse de la population vieillissante.
Oui, comme au Japon.
Et c'est là qu'arrive le coronavirus. Et la vaccination de masse.
Ouais.
Je ne ferai pas le lien, mais je pense que nos auditeurs sont intelligents, sont capables de tirer leurs conclusions eux-mêmes. Y a-t-il autre chose à rajouter à ça?
Non, je pense qu'on pourrait conclure en musique.
Musique, maestro.
L'indard venimeux, là un socle trompeur, plus loin... une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoction d'acide qui vous rongerait les os et puis l'inévitable clairière amie vaste accueillante les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient. Et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Vénus. Socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant, et ces cerises qui grossissaient lorsque... La pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première.
Alors, vous écoutez toujours Radio Masse Critique, à moins que vous ayez changé de poste entre-temps. Alors, pour conclure, moi, j'ai quelques sujets à vous proposer. On parle de tout ce qui a été injecté dans tout ce qui est dans les injections géniques. On parlait d'un système de routeurs, d'antennes,
oui.
qui aurait été observé. Oui. Moi, j'avais vu passer ces histoires-là que certains vaccinés auraient une adresse Bluetooth. Puis oui. C'est un peu comme, tu sais, quand on voyait là, les gens qui étaient électromagnétiques, là, qui pouvaient mettre des cuillères et des trombones sur leur point d'injection. Quand j'ai vu ça sur Internet, j'ai dit, bon, c'est pas crédible. Tu sais, j'étais sceptique. Mais finalement, c'est comme...
Ben, en tout cas,
c'est avéré. Là. Il y a des gens sérieux qui ont dit oui, effectivement, puis qui eux-mêmes se sont mis à se poser des questions. Comment ça se fait que sur le point d'injection, tu deviens magnétique? Ça s'est jamais vu. T'sais. On n'a jamais vu de produit que tu injectes à du monde, puis qu'il devienne magnétique tout d'un coup. Ouais. Puis il y avait cette histoire-là des gens qui auraient été vaccinés. C'est complètement surréaliste.
Mm-hmm. Il y avait un code.
Une affaire Bluetooth. T'sais.
Un code.
Moi-même, là, je suis sauté, mais là, je dis, hey, les gars, calmez-vous. Mais, crif, il y a du monde qui l'ont essayé.
J'ai vu deux documentaires, un, entre autres, dans le film de Hold On.
Oui, dans Hold On, ils font comme référence à ça, de façon plus ou moins directe. Ils ne disent pas directement l'histoire, vous avez une adresse Bluetooth.
Ben oui, ils font l'expérience.
Oui, absolument. Oui, ils font l'expérience, puis tu le vois en image.
Parce qu'ils sont dans un champ, puis ils font avancer les personnes progressivement, puis... Ils leur font un signe, soit ils ont le code, soit ils ne l'ont pas. Puis beaucoup de personnes qui avaient reçu le vaccin, je pourrais pas dire exactement.
Ben c'est ça. Nous, on aimerait ça confirmer ça. Fait qu'on veut faire l'expérience nous-mêmes. Ouais. Fait qu'on est allé chercher l'application Blue Sniff
sur, pour Apple. J'ai un vieux, pas Apple, mais iOS, là, un vieux iPhone, que j'ai mis l'application BlueSniff. Puis on était assez surpris, en fait, quand on s'est mis à regarder, parce que il y a un nombre incalculable d'adresses Bluetooth unknown qui apparaissent sur l'écran quand on se promène en ville.
Oui.
Puis on s'est dit, il faudrait trouver un spot où ce qu'il y a zéro Bluetooth pour qu'on puisse aller tester si quelqu'un est Bluetooth. C'est fou, moi je parle de ça, c'est surréaliste.
Oui.
Puis on a trouvé un spot dans le centre-ville de Québec. Fait que si vous êtes à Québec, contactez-nous, on va vous parler des médias sociaux tantôt. Alors, trouvez le moyen de nous contacter. Si ça vous tente d'essayer, si vous faites partie du groupe expérimental, que vous avez été vacciné récemment ou pas, ou que vous avez eu, même, on pourrait même tester les gens qui ont juste été testés, juste des tests PCR, parce que ça a l'air que ces histoires-là, d'Arpagel puis tout, toutes sortes d'histoires, nous, on veut juste vérifier. C'est-tu vrai, cette histoire-là? Il y a des gens, on voit sur Internet qu'il y a des gens qui l'ont essayé puis qui ont dit « j'y croyais pas, mais là, c'est dur de dire le contraire ». Fait qu'on a trouvé un spot à Québec, un spot assez pittoresque, d'ailleurs, où on pourrait, il y a zéro, on pogne zéro Bluetooth. Fait que suffirait juste que nous autres, on pourrait sparker là, puis vous pourriez passer, nous arrêter, puis on vous dirait votre numéro de Bluetooth. Hexadécimal.
Ouais.
Vous sauriez votre adresse, toujours. Si ça vous tente d'essayer, si ça vous tente de tirer ça au clair. On n'est pas certain de rien, mais c'est comme Thomas, hein? Je vais y croire, mais que je le vois. On aimerait ça essayer. Contactez-nous.
Ouais.
Tu as autre chose à dire? Moi, je pense que Stéphane, tu voulais proposer que les gens l'essayent.
Ben moi, j'encouragerais les gens à l'essayer par eux-mêmes.
Ouais. Il faut trouver une application qui t'affiche les...
Il faut d'abord aller chercher BlueSniff.
Les appareils. Ouais.
Et ensuite, nous, on a trouvé un endroit qui était sous un viaduc.
Ouais.
Sous un viaduc.
Comme à côté d'une traque de chemin de fer, il n'y a rien. Là.
Et il n'y a aucune indication. C'est coupé.
Comme un petit creux.
Fait qu'à ce moment-là, si une personne s'approche, qui a été vaccinée, il va apparaître, si c'est le cas.
Si la théorie est vraie.
Il va apparaître un numéro.
Si l'hypothèse se vérifie.
Une identité numérique.
Fait qu'essayez ça. Essayez de trouver un endroit où il y a zéro Bluetooth quand vous checkez avec l'application BlueSniff.
Si vous, si vous filmez, si vous avez l'intention de filmer tout ça, vous pourriez nous envoyer vos vidéos.
Nous, ça serait pas pire. On pourrait compiler ça.
On pourrait les compiler.
Puis, il y aurait moyen, si les gens ne veulent pas apparaître, tu filmes à côté ou tu ne filmes pas la face.
Exactement. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait accumuler.
C'est une proposition. Donc, si ça vous tente de participer à l'expérience, vous pouvez le faire comme ça. Si vous êtes à Québec et que vous cherchez un spot, on en a un. Contactez-nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je pourrais déjà parler des médias sociaux. Contactez-nous sur radiomasscritique.tk. C'est un site web. C'est notre site web tout nouveau, tout beau, tout croche. Vous pouvez déjà sur le site vous inscrire à notre émission avec une adresse email. Donc, dès qu'on fait une émission... qu'on a fini la post-prod, on vous l'envoie, pouf!
Ouais, c'est une bonne
toute
idée.
Toute fraîche, toute chaude dans votre adresse email. Et vous avez aussi les liens des médias sociaux. On est en train de développer ça. On est sur quoi déjà? On est sur Facebook. On a un groupe Facebook, Radio Masse Critique. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Mais Facebook, on est en train un peu de décoller de ça. Mm-hmm. Parce que déjà, notre site est barré sur Facebook. Ça a pris quoi? Ça n'a pas pris 2 jours.
Non, 2.
Fait que c'est assez restreignant. On a une page, une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Steph et moi, on est sur Getter. Moi, sur Getter, c'est A commercial Biguenic, B-I-G-U-E-N-I-Q-E.
Moi, c'est A commercial Cisco.
S-I-S-C-O.
Oui.
Puis on attend toujours Jocelyn.
Oui, j'arrive.
On t'attend.
Ça sera pas long.
On t'attend sur Getter.
Oui, puis j'attends.
Venez nous rejoindre. Moi, je suis sur Twitter. Pas trop investi sur Twitter. Quoique ces jours-ci, je m'essaye. Mais A commercial B-I-G-U-E-N-I-Q-U-E sur Twitter. Je vais juste vérifier, là. Qu'est-ce que j'oublie? VK. Il y a une page VK aussi. Radio Masse Critique sur VK. Vous pouvez nous suivre là. Fait que contactez-nous via les médias sociaux, par email, radioacommercialmassecritique.tk. Tout simplement, radioacommercialmassecritique.tk. Ça vous tente de participer à ça. Je tenais à faire un petit message à tous ces Québécois qui pensent sérieusement à quitter le Québec, et ils sont plus nombreux qu'on pourrait le penser. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est un article du Métro. Je ne sais pas, je lis-tu des extraits ou... Peut-être. C'est, bon, ces étrangers non vaccinés qui préfèrent quitter le Québec, puis ça parle des Français, surtout, moi, je pense qu'il y a un Belge dans le tas, qui disent ça pue d'allure le Québec là, c'est la taxe la taxe aux non vaccinés, ça l'a quand même fait. Il y en a beaucoup qui ont pété les plombs.
C'est un vrai délire.
Ils disent, on peut plus vivre au Québec, c'est une prison le Québec. Ils veulent sacrer leur camp, puis tu sais, il y a comme un extrait, je vous lis juste un petit extrait. Julie Berger est une Française qui vit au Québec depuis 10 ans et n'est pas vaccinée contre la COVID-19. Ce qui m'a fait tomber amoureuse du Québec, c'était le fait que je me sentais accueilli sur une terre de tolérance, de bienveillance et de respect d'autrui. Puis là, elle est un peu déçue.
Ouais.
Puis elle a dit, là, elle était même sur le point d'avoir sa nationalité canadienne. Elle a dit, non, moi, je reste pas ici. Il y a un autre gars. Puis c'est des gens qui ont des gens sérieux, là, qui ont des jobs sérieux, qui disaient, hey, ça marche pas. Guillaume est arrivé à Montréal il y a maintenant 8 ans. Selon le Français qui habite dans Rosemont, le gouvernement pousse la vaccination à tout prix alors que le vaccin n'empêche pas la contamination.
Mm-hmm.
Il rajoute, en tant que jeune en très bonne forme physique, j'ai plus de probabilité de me retrouver à l'hôpital à cause d'un accident de voiture qu'à cause de la COVID. Fait que c'est ça.
Oh oui, puis moi j'ai...
Il y en a plusieurs, extraits comme ça. Ils ont un groupe Facebook. Je me suis joint à leur groupe Facebook. Je n'ai pas encore communiqué avec eux autres. Mais ça serait le fun, si vous êtes, si vous voulez quitter le Québec, de contactez-nous parce que ça, on pourrait peut-être faire un petit montage avec ça. J'aimerais ça avoir vos raisons pour peut-être se parler par téléphone, enregistrer ça, puis avoir vos raisons de pourquoi vous voulez quitter le Québec. Vous pourriez poser des questions sur est-ce que le Québec, c'est-tu pire au Québec qu'en France ou ailleurs d'où vous venez, où c'est que vous voulez aller. Il y en a qui veulent aller en Floride ou au Texas, qui sont des États qui ont fait comme « Non, nous autres, on n'embarque pas dans la patente. »
Mais il faut dire que le Québec paraît mal. J'ai un ami qui habite en Belgique, puis de leur point de vue là-bas, je veux dire, ça ressemble à une prison. Là.
Le Québec est une prison. Cinglé. On était pas mal les seuls à avoir un couvre-feu là, récemment. Hey, puis nous annoncer ça la veille du jour de l'an, faut faire exprès.
Ouais.
Il y a une santé publique, c'est ce qui fait, là, est capable de modéliser puis de dire ben on va le faire avant. C'est délibéré tout ça. Allumé, gang. Québec, quitter le Québec. Bon, OK. On va recentrer le propos. J'ai donné les médias sociaux, grosso modo, j'aurais pu être plus explicite, j'aurais pu préparer un peu plus ce segment-là, je l'avoue, mais avec la technique et tout, je suis un peu dépassé.
Non, c'est parfait, c'est parfait.
J'ai un petit extrait, une petite question que je voulais vous lire pour essayer de faire le lien avec tout ça, OK? La question, c'est surtout la question de... je vais vous la lire. Personnellement, crois-tu ou as-tu l'impression que de continuer à vivre nos vies individuellement suffira à ce que les choses entrent éventuellement plus ou moins dans l'ordre? Ou as-tu tendance à penser qu'un dépassement collectif, qu'un effort concerté sera nécessaire pour éviter le pire? C'est un peu la question de la mobilisation. Cette question-là est un peu à la base. À partir de cette question-là que je me suis mis à contacter des gens, puis que là que j'ai approché Stéphane, puis qu'on s'est connus, parce que je me dis, il faut faire quelque chose, mais tout seul, on ne peut rien faire. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis toute l'idée de masse critique, c'est ça. C'est-à-dire, il faut aller chercher du monde. Il faut qu'ensemble, on fasse quelque chose. Parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'une seule personne peut est insignifiante, en fait. On est tout seul, individuellement, on est insignifiant. On ne peut pas changer le cours des choses. Fait qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'est ça la question. Puis le lien que je voulais faire avec ça, c'était quitter le Québec ou faire le sortir... Le Québec du mondialisme. C'est ça. Ceux qui veulent quitter le Québec, bon, aller ailleurs, ça va-tu être mieux ailleurs? Le mondialisme est mondial. Hein? Moi, au lieu d'aller ailleurs, parce que je suis né ici, c'est plus difficile. Pour un Français, je peux comprendre. Mais mon Québec, c'est mon Québec. Fait que peut-être que la solution, l'alternative, c'est plutôt que de quitter le Québec puis d'aller vivre en Namibie, en Afrique, où ça a l'air cool, la Namibie. Je pourrais peut-être rester au Québec puis dire, ben, collectivement, le Québec, on est-tu capable de se mobiliser puis de dire, non, nous autres, on n'embarque pas dans votre hostie de patente. On sort du mondialisme.
Mais, mon impression, c'est que le vent est en train de tourner. Moi, ce que j'adresserais comme message à ces personnes-là qui désirent partir, c'est qu'ils devraient peut-être patienter un peu. Parce que là, on dirait que les journalistes
Même les journalistes qui ont
malgré
marché
eux,
dans
oui,
les
oui, exactement,
rangs depuis
qui ont défendu,
le début.
Qui ont défendu le narratif.
À part peut-être Martineau. On n'en parlera pas.
Puis, je pense que il y a... je pense que
les
journalistes gens
sentent
à
la soupe chaude. Oui. Ils sentent que ça marche plus vraiment.
En tout cas, tous ceux qui ont défendu le narratif bec et ongle jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus d'articles qui sortent pour dénoncer le gouvernement. Qui remettent en doute, soit directement, soit indirectement. Puis, on voit aussi, dans les propos des gens, on voit qu'il y a moins d'adhésion. Oui, exactement. On voit que dans les discours, quand je vais à l'épicerie, je voyais des gens qui étaient très rigides par rapport à la position à tenir par rapport à la pandémie, aux restrictions sanitaires. Puis là, tout à coup, je me rends compte que non, ils ne tiennent plus le discours qu'ils tenaient avant.
Je pense que l'effet, moi, ce que j'appelle l'effet Doxa là-dedans, c'est que le rôle des médias, c'est de faire croire au monde que la majorité pense d'une certaine façon. Mais j'ai l'impression que les gens qui remettent en question le système, qui remettent en question les mesures de santé publique, ou qui remettent en question la légitimité de toute cette aventure-là de COVID-19, sont beaucoup plus nombreux qu'on voudrait nous le faire croire. Mm. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'on voudrait nous le faire croire.
Je pense que la campagne de vaccination s'essouffle. Je pense que la troisième
dose,
la troisième injection est moins bien reçue.
Mm-hmm.
Il y a encore des gens qui...
Oh, il y a beaucoup de...
Qui offrent un consentement.
De double inoculé.
Mais qui
le
sont...
Disent,
ouais, même...
mais là, attends, là.
Ouais, mais je pense même que... Comme on a vu, là, il y avait des gens... qui allait prendre la troisième dose et qui a un ami qui a entendu les discussions et qui était très mécontent d'aller prendre leur troisième dose, mais il la prenait pareil.
Mm-hmm.
Parce qu'ils se sentent obligés à cause des...
C'est un genre d'abonnement. C'est une fois que tu es embarqué, tu peux plus sortir.
C'est comme un consentement.
Mais c'est ça que je crains aussi avec toutes ces technologies-là.
C'est pas vraiment un consentement réel, c'est un consentement par rapport aux pressions sociales. Mais ça semble moins bien passé.
Oui. Oui, puis les gens se rendent compte que de plus en plus, ça sert à quoi de prendre un vaccin qui ne nous protège pas? Ils voient bien, là. C'est devenu une évidence.
Expérimentale, ça n'a aucun sens. Juste, fais abstraction de tout ça, là. Si tu m'avais dit en 1900, quand je suis arrivé ici, en 98, tu m'avais dit en 1998, un jour, on va imposer à la population. Une injection qui contient de l'ARN messager qui rentre dans tes cellules.
Mm.
J'aurais dit,
ouais.
Oublie ça, là, ça arrivera jamais. Jamais personne n'acceptera ça. Là. À l'époque, on allait à toutes les conférences, on militait contre les OGM. Mais là, faire ça, de mettre de l'ARN, de dire ARN messager, c'est de la fausse représentation. L'ARN messager, ça n'existe pas. Okay? Il y a l'ARN. L'ARN messager, c'est juste c'est une position fonctionnelle dans un schéma de représentation, dans un modèle de représentation de comment fonctionne
c'est très conceptuel.
Le métabolisme génétique de la cellule. Ça n'existe pas de l'ARN messager. C'est pas écrit sur l'ARN « Bonjour, je suis de l'ARN messager ». Il n'y a pas un code-barre qui dit « Ah, c'est de l'ARN messager ». C'est pas de l'ARN transmetteur.
Non, c'est ça.
L'ARN, tu vas injecter de l'ARN dans ta cellule. En tout cas. On pourrait partir sur un débat de fou là-dessus.
Oui, mais c'est un petit bout du processus. Fait que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé.
J'aurais jamais cru à ça. Mais là, c'est ça qui est en train d'arriver avec des codes génétiques d'ARN brevetés par des compagnies privées. Je sais pas quoi dire de plus. Y'avait-tu autre chose à dire? Ma simple question est faite. On finit avec un texte à propos, puis une chanson. C'est parti?
Parfait.
Merci d'avoir été avec nous. Vous écoutiez Radio Masse Critique. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2022. On va se revoir probablement pour le prochain live dans 2 semaines. D'ici là, soyez libres. Tâchez d'être libres. À bientôt.
Salut à tous.
Fuck it! Moi, je suis plus là. Tu m'as perdu. J'ai quitté le vent. Je Québec-zite. Cherche-moi pas. Je suis rendu Maverick errant. Fuck off, tu m'as tout pris. Tu m'as piqué mon ADN. Toutes mes proches puis mes amis transformés en OGM. Fuck all, moi je décalisse. C'est plus ma place. J'ai eu ma dose. Ça crawl, ça rampe, ça glisse. Ça fait limace, ça fait la pose. Fuck you, toi pis ta clique. Les dents blanches, la tête dans le cul. Les cerveaux mous, les névralgiques, les beaux dimanches, on n'y croit plus. Bullshit, les garnements, les médias, de qui, de who? Je Québec zit, vous êtes déments, vous êtes plus là, vous êtes tous fous. Fucked up, moi je décrète pour de vrai l'état d'urgence. Allez hop, faut que ça pète, pour de vrai je pense.
Ça commence à la naissance. L'accouchement, ça commence au commencement. Ça dépense en fou pour avoir l'air prospère et portant. Ça prétentionne, ça dimensionne, ça pisse sans sens, ça récompense. Le soi-disant bon sang. Pis ça pense qu'il faut qu'on pense, qu'il faut qu'on plante l'autre avant que lui nous plante. Ça s'avance en charmant, grand enfant que dans dedans.
La patente de watch.
Ça nous tente. Quand ça s'étend, la grande, grande, grande face d'ange à grand vent.
La patente t'attend.
L'apparente chance, la ville et l'aisance, la pile de paiement écrasant, à rendre rare le bon temps. Tellement rare que t'as pu pantoufler le gosse de tenter le moindre changement. Soit qu'on se défend.